allons donc passer à l'ouvrage de Pierre Naros, qui la rencontre s'écrit. D'ailleurs, en lisant, je me suis rendu compte que vous avez cité certains écrivains que vous aviez cités à l'époque. Vous êtes venu faire un séminaire sur l'interprétation du séminaire 11. Je pense en particulier à Crébillon, entre autres, que vous aviez déjà cité à l'époque. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous incite à le lire. Pourquoi ? Parce que c'est précis, c'est rigoureux, ça va crescendo, je dirais, puisque Pierre Naros présente un certain nombre de concepts, d'éléments de l'enseignement de Lacan, pour finalement arriver à la rencontre. Ce qui la rencontre s'écrit, ce qui permet au fur et à mesure de comprendre la logique qui l'anime et cette rigueur tout à fait obstinée, il la met en avant, hein, puisque vous avez sans doute remarqué ostinato rigore, c'est vraiment ce qui était absolument essentiel pour Léonard de Vinci, c'est-à-dire cette rigueur obstinée, ce qui fait d'ailleurs, on peut complètement distinguer Pierre Naros de Léonard de Vinci quand même, c'est que vous savez que Léonard de Vinci, avant de faire une toile, il faisait des préparations, je ne sais combien de toiles avant, et certaines toiles n'ont jamais été terminées. Mais on a retrouvé des dizaines et dizaines de préparations, et Pierre Naros, lui, quand même, voilà.
Excusez-moi.
Donc, oui, je vais reprendre un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour Lacan, dans un premier temps, la rencontre, c'est impossible. Hein. Rappelez-vous le séminaire 11, la tuquée, la rencontre, la contingence de la rencontre, le hasard, puisque la contingence vient du latin contingentia, je crois qu'il veut dire le hasard. Et donc, d'ailleurs, il évoque à propos de ce fameux rêve que tout le monde connaît, que Freud a parlé, mais que Lacan a repris dans le séminaire 11, « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» C'est-à-dire l'impossible rencontre entre un père et son fils. Et ce qui fait qu'effectivement, dans un premier temps de l'enseignement de Lacan, la rencontre est totalement impossible. Et donc votre ouvrage va du non de l'impossible de cette rencontre à la contingence d'une rencontre. Alors, il y a beaucoup de questions que je pourrais vous poser. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a une que je trouvais tout à fait importante. Là, je mets du côté homme. Parce que quand même, dans l'ouvrage, vous verrez, c'est tout le temps des binaires. Homme-femme, les femmes toujours amoureuses. Ça pourrait être une définition de la femme, peut-être chez vous. La femme est amoureuse.
C'est ma définition.
C'est votre définition. Et les hommes de temps en temps, rarement. Et je prends quelque chose du côté homme. C'est passer de la valeur d'usage de l'organe à la valeur d'échange de l'organe. C'est quelque chose d'important. Parce que je pense à une analysante qui m'a dit un jour, en parlant de son amant, je ne sais pas si ça peut coller avec ce que vous avez dit, en parlant de son amant, elle lui avait dit « J'aime l'homme qui porte ce sexe. » Et que lui, il en avait été tout chamboulé. Vous pouvez un peu préciser ce passage, la valeur d'usage à la valeur d'échange. C'est une première question, puis on va terminer avec Procellus qui va poser à son tour une question, puis je vous reposerai des questions, et ainsi de suite. Et puis le public peut aussi poser des questions, évidemment.
C'est une... pour mettre ça à l'épreuve, il faut certainement évoquer ce que j'appellerais une sensibilité lacanienne. Je veux dire par là que cette formulation, cette façon de s'exprimer, je la tiens du cours de Jacques Alain Miller. Et je pense que l'on peut trouver ce passage de son cours de cette année-là dans la revue. Alors, je ne sais plus s'il s'agit des paradigmes de la jouissance ou s'il s'agit de ce qu'il a appelé, il y avait deux côtés.
Le
répartitoire sexuel, voilà. C'est dans l'un de ces deux textes que Jacques Alain Miller évoque donc ce passage de la valeur d'usage à la valeur d'échange de l'organe. Mais là où vous avez eu raison, c'est de resituer cette question par rapport au fait que, je vais parler comme ça, la femme lacanienne, elle est amoureuse. Ce qui montre bien que le partenaire d'une femme, c'est l'autre. L'autre qui lui parle et à qui elle parle. Et dans ce, puisque je ne le fais pas dans, je ne suis pas sûr que j'étais dans cette, que je me situais dans cette veine-là à ce moment-là, mais puisque vous mettez l'accent sur ce point, Jacques Alain Miller montrait que pour le partenaire de l'homme n'est pas l'autre, justement. Que, oui, c'est ça. Ce que je cherchais, c'était l'équivalence entre aimer et parler. Mmh. Pour, du point de vue de la psychanalyse lacanienne, aimer suppose que l'on parle. Et de ce point de vue-là, il est absolument impossible que l'amour ne se dise pas. C'est-à-dire que lorsqu'une femme dit à un homme « En fait, tu ne me dis jamais que tu m'aimes », si l'homme répond « Mais je n'ai pas besoin de le dire », il se trompe. Du point de vue de ce que Lacan a pu avancer dans son séminaire 20. C'est-à-dire, et ce que Jacques Alain Miller a donc accentué. C'est-à-dire qu'il n'y a d'amour qu'à se parler. L'amour est bavard. En revanche, du côté homme, en effet, donc, est-ce que c'est ironique de la part de Lacan, mais il a toujours voulu montrer que côté homme, l'organe est un obstacle. C'est-à-dire que, à la limite, c'est quelque chose dont il est embarrassé. Et en tout cas, c'est un obstacle à la rencontre de l'autre sexe, d'une femme, ce qui est paradoxal, en effet. Et donc, cette affaire fait que je trouve que la question de la rencontre est une question très complexe du point de vue de la psychanalyse. Du point de vue de... C'est pour cela que moi je pense qu'il est très difficile de parler de cela sans en passer par la littérature. Je parle de la question de la rencontre et non pas de la question du couple. Mmh. Moi ce qui m'a passionné, là en ce moment je suis dans le coup de faire couple, on me demande de des textes, de participer aux prochaines journées. Mais enfin, dans le livre, c'était absolument pas ma préoccupation, le goût.
Oui, tout à fait.
Je trouve que c'est une autre question. Oui. La question, c'est vraiment celle d'André Breton dans Nadja. Qu'est-ce qui fait que ces pas croisent ceux de cette jeune femme, Nadja, dans la rue, et qu'est-ce qui fait qu'il s'approche d'elle, qu'il lui adresse la parole, etc., etc. Donc, on voit bien que de ce point de vue-là, si je puis dire, il n'y a pas de rencontre sans parole. C'est-à-dire, il n'y a de rencontre qu'à ce que ça puisse se parler. Et c'est pour ça que la notation de Lacan à la fin du séminaire encore, dans le dernier chapitre, presque à la toute fin, quand il parle de la rencontre en disant que ce qui fait que la rencontre se dissout, c'est le « je n'en veux plus rien savoir ». C'était énigmatique. C'est-à-dire que la rencontre ne peut tenir le coup d'abord que si elle se renouvelle. C'est-à-dire que si elle ne se considère pas comme étant unique. Voilà, ça y est, nous nous sommes rencontrés et je peux regarder le match de rugby à la télévision. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se casse la figure. C'est-à-dire que, mais cette question du savoir, en fait, cette phrase de Lacan, là, à la fin, c'est en bas de la page 132, c'est presque à la fin. Et une phrase, mais comme quelquefois chez Lacan, incompréhensible. Il ne se peut pas que le sujet ne désire pas, ne pas trop en savoir sur ce qu'il en est de cette rencontre éminemment contingente avec l'autre. Pourquoi il utilise cette forme négative ? Il ne se peut pas que le sujet ne désire pas, ne pas trop en savoir sur ce qu'il en est de cette rencontre éminemment contingente avec l'autre. Si on la simplifie, la phrase, c'est-à-dire si on la remet sur ses pieds, ça veut dire que il ne se peut pas que je n'en veuille rien savoir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse à ne plus vouloir rien en savoir. Mais on a fait que la moitié du chemin. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, vouloir en savoir quelque chose ? Ça veut dire parler. Donc ça veut dire que la rencontre, il ne peut y avoir de rencontre qu'à se parler. Alors, on va se parler tout le temps, bien entendu. Donc ça montre bien que ce sont des moments et que la structure temporelle de la rencontre est une structure faite de moments. Mais de moments qui ne peuvent être marqués que par l'étonnement, par la surprise et par une sorte de quelque chose qui tout d'un coup s'éclaire. Donc on voit bien que... Moi, ce qui, je vais vous dire, ça, je l'ai entendu Lacan dire ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est en 1973, il a 72 ans. Et il en parle, et cette phrase qui est d'une complexité incroyable, enfin, pourquoi parlait-il d'une façon aussi, que Jacques Anaïmer a fait remarquer ? Pourquoi est-ce qu'il s'exprimait d'une façon aussi difficile à comprendre immédiatement? Mais moi, ce que je trouve, c'est que malgré la complexité que recèle cette phrase, il y a une fraîcheur là-dedans extraordinaire. Il avait un sens de cela, Lacan, dans ce dernier chapitre, de ce que c'est qu'une rencontre, qui m'a ravi quand je l'ai entendu dire ça. Donc pour répondre à votre question, Évidemment, c'est une référence à Marx, c'est-à-dire que la valeur d'usage répond, satisfait selon Marx, à un besoin. Et donc, ce qu'a voulu dire Jacques-Alain Miller dans un style marxiste, c'est que la difficulté pour l'homme est de faire en sorte qu'un passage s'effectue de l'organe considéré dans sa valeur d'usage, avec l'accent auto-érotique que cela comporte, à la valeur d'échange, c'est-à-dire au fait qu'il accepte de s'en défaire. Parce que, en quelque sorte, l'homme, moi je reste dans le mi-dire, mais Jacques-Alain Miller, lui, disait les choses moins pudiquement, disons, c'est-à-dire que il donne l'organe à sa partenaire, c'est-à-dire qu'il accepte de s'en séparer. Autrement dit, cela met la castration dans le cou. Et ça va dans le sens où, effectivement, là où un homme se prend les pieds dans le tapis, c'est dans, justement, le fait que la jouissance va plus vite que le désir. Et que donc, ce qu'a dit Jacques-Alain Miller à cette occasion, c'est que la tenue côté homme, c'est la tenue du désir, de façon à ce que la jouissance ne soit pas immédiate. Donc il y a une sorte de... C'est ce qui fait que Lacan a pu dire que le sujet à ce moment-là, masculin, se défend contre la jouissance avec le désir. Et Lacan est quelqu'un qui était du côté, si je puis dire, côté homme, du côté de l'homme de désir. Et on voit bien, je ne sais pas moi, on voit bien chez le style d'un homme, s'il est plutôt... si le désir est quelque chose qui l'anime, ou s'il est pris dans une sorte de jouissance qui le déborde. Et on peut être génial avec ce style-là, comme Picasso. La peinture de Picasso, c'est une peinture de la jouissance. Pour avoir une peinture du désir, il faut aller du côté de Watteau, des peintres de Greuze, peut-être de Boucher, en fait, du côté de la peinture du XVIIIe siècle, alors que, évidemment, Picasso, c'est autre chose. Et donc, je crois que cette distinction marxiste introduite par Jacques-Alain Miller entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, en fait, vise la distinction freudienne qui entre en ligne de compte dans le ravalement de la vie amoureuse, qui est la distinction entre le désir et la jouissance. Et la question étant, comme vous l'avez très bien dit, celle de l'amour côté homme. Puisque dans son répartitoire de la vie sexuelle, Jacques-Alain Miller reprenait l'opposition entre ce dont parle Lacan, donc dans Propos directif pour un congrès sur la sexualité féminine, oui, où il parle, où il oppose à la forme érotomaniaque de l'amour chez la femme, la forme sa forme fétichiste côté homme. Et la forme fétichiste, ça veut dire ça. Ça veut dire que son objet est muet. C'est ça le fétiche. C'est-à-dire que la parole n'est pas indispensable. Donc on voit que le malentendu est... Le malentendu est là dès le début. Et qu'avec la rencontre, c'est ce malentendu qui se déjoue, me semble-t-il. Voilà.
Bon.
Il va rester quelques minutes seulement. Oui, c'est un livre de la lecture. Vous dites que Margot, que c'est le déchiffrage, la passion du déchiffrage du texte de Lacan, éclairci par Jacques-Alain Miller. Et donc, oui, vous clarifiez, vous expliquez, vous rendez plus accessible, oui, et beaucoup des propos de Lacan. Et donc, nous, les lecteurs, nous trouvons aussi un gain de savoir. C'est un livre, donc, qui... c'est une série d'articles le long de plusieurs années, mais il y a un fil, au moins il y a ce fil conducteur, entre autres, mais de ce travail rigoureux du texte de Lacan et la lecture de Miller, ce qui évidemment pose la question si... les lecteurs qui n'auraient pas passé par Lacan et par Miller pourront accéder tout à fait, parce qu'évidemment la pente, c'est aller directement au livre de Navo au lieu de passer par Lacan et Miller. Et c'est un livre joyeux aussi, parce que vous proposez une chanson. C'est page 191. Qu'une femme est faite pour déranger un homme. Alors, oui, donc il y aurait beaucoup, beaucoup de points à étudier. Et à discuter pour encore des éclairages. Ces points, ces trois termes, évidemment, ce sont les trois termes des modalités d'Aristote, nécessaire, impossible et contingent, et que Miller, oui, nous a expliqué dans des cours, et Lacan aussi, dans des séminaires. Alors, il y a ce côté Lacan de s'amuser. Il dit qu'il faut qu'il s'amuse. Et c'est comme ça que je comprends l'effet que le nécessaire de... Bon, il n'y a pas de tableau. Mais le nécessaire de la modalité d'Aristote, il a fait nécesse pas. C'est vraiment de l'amusement irrévérencieux. Et nécesse pas de s'écrire. Donc là... il y a cette dimension, comme Marie-Claude Sureau évoquait tout à l'heure, s'écrire pour la psychanalyse, non ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, nécessaire pas de s'écrire, pour dire le nécessaire, nécessaire pas de ne pas s'écrire, pour l'impossible, et cesse de ne pas s'écrire, pour les contingents. Donc, c'est un jeu de mots, à partir de ces termes classiques d'Aristote, pour évidemment pour la clinique de la psychanalyse. Alors, s'écrire, oui, c'était une question, comment la clinique, nous pouvons pointer que c'est écrit. D'ailleurs, dans Lacan explique pourquoi il dit « n'y a pas de rapport sexuel au sens qu'il ne s'écrit pas ». Mais là aussi, je pense qu'il y a aussi un petit amusement de Lacan sur le fait que, en français, on dit « c'est écrit ». C'est écrit d'avance. Et donc, non, dans la rencontre sexuelle, n'était pas écrit d'avance. Et alors donc, oui, ce que j'ai trouvé dans les livres, entre autres, pour s'écrit, qu'est-ce que ça veut dire s'écrit, c'est l'émergence d'un savoir. Ce serait une des façons. Mais alors, pour amener une question sur un point qui est un tout petit peu énigmatique pour moi, c'est page 18. J'aimerais connaître ton point de vue. Donc, il dit que la rencontre par un homme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que c'est écrit ? La rencontre par un homme de telle femme dit quelque chose sur quelle est la vérité de cet homme. Mais Lacan précise que l'inverse n'est pas vrai. Qu'une femme choisisse tel ou tel homme, cela ne dit rien sur elle. Ça me paraît curieux. Et même, il me semble contradictoire avec ce que Lacan dit par ailleurs.
Ah oui.
Moi, je donne encore mon argument. Comme ça, tu, entre-temps, tu cherches. Et, si la rencontre amoureuse, c'est la rencontre de deux savoirs inconscients, comment on peut dire que qu'une femme choisisse tel ou tel homme, cela ne dit rien sur elle.
Donc c'est ta question.
Soit il y a quelque chose qui m'échappe dans cette proposition, soit, oui, je m'appuie sur Lacan pour le contredire.
Ben, donc, ce que dit Lacan, c'est... dis-moi, enfin, ce qu'il dit à un homme, que ce qui dit quelque chose d'un homme, c'est la femme avec qui il est. Voilà ce qu'il dit.
C'est ça.
Simplement, il dit la vérité. C'est-à-dire qu'il faudrait, là, déplier le fait qu'il dise que cela dit quelque chose sur la... C'est page 18.
18 en haut.
Oui. Ça dit quelque chose sur la vérité de cet homme.
Mm.
Il ne dit pas sur cet homme. Il dit sur la vérité de cet homme.
Ouais.
Et déjà ça, il faudrait en discuter. Mais je trouve que les deux cas qui ont été présentés de femmes, qui ont été présentés tout à l'heure, montrent bien que ce qui peut animer une femme, c'est quand même très fréquent. C'est, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui leur prend aux femmes, de ce point de vue-là. Je ne sais pas, il faudrait là aussi pouvoir en dire plus. C'est qu'elles veulent le sauver. C'est-à-dire qu'elles choisissent, elles préfèrent choisir un homme à terre plutôt qu'un homme qui soit déjà un grand médecin, un grand avocat. Et souvent, je me pose la question, même à propos de jeunes femmes qui me sont proches. Je me dis, mais... quand même, c'est pas un avocat, c'est pas un médecin, c'est pas quelqu'un comme ça, ou un grand professeur, je sais pas, ou un étudiant, je sais pas. Qui... Enfin, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Donc,
non, mais c'est important. Ouais, moi, je pense à un jeune homme que j'ai vu il y a une dizaine d'années, qui m'expliquait comment il draguait. Il s'habillait mal, il faisait le type,
fort.
Il faisait le type égaré, perdu, qui n'avait plus rien, et il me disait ça marche à tous les coups, vous avez toujours une femme qui veut vous sauver.
Voilà.
Et il disait dans l'heure qui suit, je suis sûr de la mort.
Mais c'est à la
limite. Il a joué l'homme perdu qu'une femme veut sauver.
Voilà, vous avez égaré. Raison. C'est à la limite de la recette.
Tout à fait, il avait cette recette.
Et les garçons qui ne savent pas comment rencontrer une fille, il faut leur dire ça. Plus le type a l'air paumé, plus il est attirant. Moi, j'ai plutôt l'idée qu'un homme qui est un homme, c'est un homme qui... Il y a une certaine position dans sa parole, dans son désir. Mais je me trompe complètement. C'est pas ça du tout. Donc, je crois que c'est ce que Lacan fait entendre. Parce que c'est, ça veut donc dire que il y a quelque chose de... Est-ce que c'est un fantasme d'ailleurs qu'elle veuille sauver? Je veux dire, c'est une question. Votre question, c'est faut l'approfondir. Est-ce que c'est un fantasme le fait que cet homme, elle sentait bien dès le début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, elle a eu des enfants avec cet homme. Et bien entendu, cet homme. Disons, s'est mal tenu avec elle. Il a commencé à lui parler mal, enfin, etc. Donc, elle finit par le quitter. Mais qu'est-ce qui pousse comme ça une femme à vouloir sauver un homme Ça ne dit rien sur la vérité de cette femme, en effet. Ça dit quelque chose sur, je ne sais pas, est-ce que c'est son fantasme, est-ce que c'est... Moi, je crois que c'est une... Vous avez dit que c'était une énigme, et moi, je crois que c'est une énigme et qu'il faut lui laisser à cette énigme son caractère d'énigme. Et que souvent, chez Lacan, il y a ça. C'est-à-dire qu'il s'arrête sur des points qui sont des énigmes. Je crois qu'une femme, c'est une énigme. À partir du moment où vous allez faire un pas de plus... à essayer de croire que vous pouvez dire quelque chose au sujet d'une femme, Lacan disait c'est de la diffamation. La diffamation n'est pas loin.
Là-dessus...
C'est-à-dire il y a une suspension du savoir. La femme, c'est quand vous rencontrez une femme, il y a une suspension du savoir qui se fait.
Continuant dans la diffamation, une minute d'abord. Miller dans un...
On n'a pas jusqu'à 23 heures.
Jusqu'à la nuit.
Ah, c'est jusqu'à la nuit.
17h30, oui. C'est bien, hein.
J'avais
non, mais
vu
on...
17h.
T'avais pas dit 17h30.
Non, mais peu importe, on peut s'arrêter là. C'est comme vous voulez.
Miller disait dans un cours, je ne sais pas si ce n'est pas dans les répartitoires sexuels, que le fait que... l'importance selon les idées du partenaire, les idées de la femme. Elle donnait comme exemple donc, comment la femme colle, la compagne, le partenaire féminin colle aux idées de l'homme, de son partenaire masculin. Et il donnait l'exemple de Brigitte Bardot.
C'est un propos diffamatoire.
C'est comme ça que
d'où vient-on ce savoir,
hein? Ouais.
Non, je plaisante.
Il n'y a que Karen Horney qui peut le dire. Il n'y a que Karen Horney qui peut le dire. Elle explique, elle explique que, autant qu'il m'en souvienne dans un texte, les femmes ont tendance effectivement à avoir les opinions des hommes avec lesquels elles sont.
Donc c'est un savoir qui circule. Il n'y a pas seulement Jacqueline Miller, il y a aussi Karen Ornay. Et donc, dans la rencontre, il ne s'agit surtout pas de ce type de savoir. C'est ça, c'est ce que Lacan indique. C'est-à-dire que les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Du point de vue de Lacan, dernier chapitre du séminaire encore, c'est ce qu'on appelle un préjugé. C'est-à-dire quelque chose qui se met en travers de votre route. Il ne peut pas y avoir, c'est comme quand on reçoit un analysant ou une analysante. Freud déjà soutenait ce principe-là. Le savoir est mis en suspens pour qu'il y ait une subjectivité qui puisse s'exprimer, en effet. Et donc, dans la rencontre, c'est encore plus décisif.
C'est ça. Vous le dites bien dans votre livre, c'est gain de savoir et gain de jouissance, mais dans la dimension de l'instant, de la surprise pour les sujets. Gain de savoir sur le fait que les sujets de la rencontre, c'est plus que ce qu'ils savaient avant, du fait de ces rencontres. Donc c'est le savoir du sujet, c'est pas le savoir de l'atmosphère.
Voilà.
Mais dans ce sens, le livre est tout à fait... c'est un autre accent sur le fait que, bon, évidemment, Lacan a insisté, il n'y a pas de rapport sexuel. Miller, dans le sixième paradigme, dit c'est le paradigme du non-rapport, et tout ton travail, c'est à pas appuyer sur Lacan évidemment, d'encore, c'est il y a quand même de la rencontre possible, et cette rencontre, c'est pas la rencontre, parce qu'évidemment, on est dans une époque où il y a l'addiction de rencontres. Ça, c'est beaucoup de
signes.
Nous connaissons la clinique d'aujourd'hui avec cette addiction de rencontres. C'est pas cette rencontre-là dont tu parles. C'est la rencontre qui implique pour le sujet surprise, gain de savoir et gain de joie.
Oui, pour continuer là-dessus. On a toujours l'impression, effectivement, chez Lacan, qu'à un moment donné, il y a une butée. Je pense, premier temps, le signifiant mortifie la jouissance. Et puis sort le texte sur la signification du phallus, dont vous parlez d'ailleurs à un moment donné. Et là, pareil, non-rapport. Hop. Et puis, voilà, un impossible. Et puis là, effectivement... j'avais presque envie de dire que ce n'était pas question de psychanalyse, ce serait presque un livre à hymne de la relation, un hymne à la relation, à la rencontre. Ça parle d'amour, votre livre, essentiellement. Si on enlève tout ce qui est concept psychanalytique, il y a des écrivains dont vous parlez, c'est un hymne à l'amour, à la rencontre. Mais en même temps, je me suis posé des questions, c'est-à-dire... À la fois le phallus qui est un semblant supplée au rapport sexuel qui n'existe pas, l'amour supplée au rapport sexuel qui n'existe pas, le phallus est un semblant, l'amour est-il un semblant? Il est fait d'imaginaire, de symbolique.
C'est la question, est-ce qu'il se situe par rapport à l'imaginaire, au symbolique ou au réel? Et je pense que moi, ce qui a déclenché vraiment mon intérêt, c'est la phrase où Lacan dit que quand on rencontre quelqu'un, on rencontre son exil. C'est-à-dire que il a l'air de dire que le préalable, ça n'est pas la relation imaginaire. C'est-à-dire que au départ, il y a la solitude. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette phrase que Lacan, cette phrase d'un poète que Lacan cite dans l'instance de la lettre. L'amour est un caillou
qui rit au soleil.
Qui rit au soleil. Un caillou tout seul. C'est-à-dire que Lacan rapporte, il faudrait retrouver la phrase vraiment dans sa force, je ne sais pas de qui c'est d'ailleurs.
Vous pouvez la redire, qui rit dans le soleil.
L'amour est un caillou L'amour... qui rit au soleil.
Dans le soleil.
Dans le soleil.
Dans le soleil.
L'amour est un caillou qui rit dans le soleil.
Rognon ne savait pas de qui c'était.
C'est une femme.
Comment ?
François Rognon ne savait pas de qui c'était. Nous, vous l'avez fait écrire plusieurs fois.
Oui, je lui avais posé la question à François Rognon, il m'avait dit qu'il ne savait pas.
C'est pas dans les textes de Lacan ? C'est une femme qui a écrit ça.
Je ne sais pas. Peut-être que c'est une femme. Mais en fait, ça montre bien l'accent qui est celui que Lacan donne à la solitude fondamentale. Et donc, il me semble que Lacan, à la fin de son enseignement, s'oriente vers un amour qui tient compte du réel de l'autre. C'est-à-dire de ses symptômes, de sa solitude et de son exil. C'est-à-dire que ça n'est... Ce qui fait d'ailleurs que ça le... qu'il... qu'en quelque sorte, il écarte l'amour du regard, du narcissisme. Et qu'en effet, ce qu'il... il hystérise la situation en montrant que ce que l'on rencontre, c'est un symptôme bavard. C'est-à-dire que je me fais le symptôme du symptôme de l'autre. Et qui lui se met du coup à bavarder, et moi, en devenant ce symptôme, le symptôme de ce symptôme, eh bien je suis aussi, à partir de là, dans la parole. Donc c'est quelque chose qui me semble-t-il, enfin c'est ce que l'on sent dans à la fin de Joyce le symptôme, ce texte très tardif où il met l'accent sur ce qu'il appelle le symptôme du symptôme, alors qu'il avait mis l'accent au début de son enseignement sur le désir de désir, c'est-à-dire que le désir ne peut plus être envisagé autrement que par rapport à cette rencontre entre un symptôme et un autre symptôme. Ce qui fait que quand l'un reproche à l'autre quelque chose, ce quelque chose qu'il reproche est impliqué par le symptôme qu'il a rencontré. Et donc, on s'aperçoit que, à ce moment-là, quelqu'un qui fait une analyse arrive à dire « Mais oui, je l'ai choisi pour ça. À cause de cette défaillance, à cause de ce qui est symptomatique sur ce point. » C'est ça qui s'éclaircit avec l'analyse. Ce qui fait que mon idée, c'est que la rencontre lacanienne n'est possible, la rencontre au sens où j'en parle là, n'est possible qu'avec une analyse. Par exception, peut-être, Il y a d'autres, certainement, il peut y avoir des rencontres exceptionnelles par ailleurs. Mais je crois qu'il faut, il faut que quelque chose se soit ouvert grâce à l'analyse et grâce au chemin de l'analyse, me semble-t-il. Le monde dans lequel Lacan vit, ça s'aperçoit beaucoup moins là, maintenant, mais le monde dans lequel Lacan parle, le monde dans lequel Lacan vit, c'est un monde de personnes qui sont en analyse. Et donc, la rencontre, il en parle de ce point de vue-là. Sinon, on ne comprend pas. Moi, je crois que ce que j'aime chez Lacan, tu disais ça, c'est sa joie de vivre. La joie de vivre qu'il y a dans tout ça. Je dis ça parce que Jacques-Alain Miller a, dans Vie de Lacan, qui n'a pas été, dont simplement un petit fascicule a été publié, disait, parle de, bon, de sa relation à Lacan, mais il disait que dans l'enseignement de Lacan, il y avait eu un mouvement plutôt maniaque au début, et plutôt, je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui, c'est ça.
Et plutôt dépressif à la fin.
Terrible à la fin. Tristesse terrible.
Ouais, c'est ça, qu'il était tout seul dans une sorte de monologue. Et donc, ce que j'ai essayé de ressaisir chez lui, c'est, si tu veux, juste avant que ça ne se formule comme ça, cette, je crois qu'en à l'époque des textes dont je parle, il y avait cette joie de vivre chez Lacan, même dans sa vie. J'en dirai pas plus.
On va peut-être rester sur cette joie de vivre, je crois que c'est une bonne fin. Et je remercie beaucoup. Je vous incite à lire son livre.